Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Les petits artichauts violets, en beignet ou à la poêle. Des fleurs de courgette, à consommer très vite. Les petits escargots du jardin. Les anguilles, les coquillages, les sardines, la crème de morue, les tourteaux à la fraise. Venise, légumes et poissons, au menu de l'émission de René Elkaïm-Bollinger, le 8 juillet 2001, sur France Culture.
Dis-moi, quand est-ce qu'on mange ?
De bouche à oreille. Saveur, savoir, savoir-faire.
Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table !
Aujourd'hui, Venise maritime et maraîchère.
Quando la rosa butta i spini, mangia go e passarini. Quand la rose met les épines, mange le go et la sardine.
Chaque fois que je fais la description d'une ville, je dis quelque chose de Venise, répond Marco Polo, grand con, qui l'interroge. Voilà ce qu'on peut lire dans Les villes invisibles d'Italo Calvino. Alors Venise est-elle une ville invisible, indicible ou présente partout? Si on lit ou relit Casanova et surtout le théâtre de Goldoni, on sait que Venise est là, matérielle, concrète, odorante. Riz, chapon, pain blanc, beignet, et la polenta, la polentina, belle comme l'or, qui fait rêver Arlequin dans La femme d'esprit. Si vous ne partagez pas les populaires et délicieux plaisirs de la cuisine vénitienne, vous ne comprendrez jamais rien, écrit Alain Busine dans son livre « Scènes et banquets de Venise ». Vous ne comprendrez rien à ces immenses et somptueux banquets des peintres de la Sérénissime, de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et l'auteur ajoute malicieusement que les dolci de la gastronomie font bon ménage avec les suavités de l'extase religieuse. Ces dolci, on les retrouvera peut-être dans les noces de Cana de Véronèse, avec les oublis, les gimblettes et les pâtes d'amande débordant des coupes d'or ou de vermeil. On verra aussi que cette vaisselle précieuse et les sardines au vinaigre, in saor comme on dit, c'est toute l'ambivalence des tables de Venise. Au sommaire de Bouche à oreille, juste un mot, Baccaro. Reportage à Paris avec Michel Tesser, auteur de Saveurs et senteurs de la Sérénissime, et Marie Lacombe, chef à la Bauta, restaurant vénitien dans le 6e arrondissement, et avec Elisabetta Sapio. Comment le goûtez-vous ? Micro-ondes. Juste un mot, Baccaro.
Baccaro, c'est vraiment Bacchus, c'est le dieu du vin. Et donc, ce sont des lieux, des bars à vin, où l'on boit en particulier ce que les Vénitiens appellent les ombre. Une ombre, c'est un petit verre de vin, blanc en général. Avec le vin, évidemment, on boit ces petits vins du Frioul en particulier, et avec ce vin, on grignote ce que l'on appelle des cicchetti. C'est un petit mot familier. Ces cicchetti, ce sont des petites choses. C'est de la cucina povera, de la cuisine pauvre, à base de sardines, de légumes, de nervetti, c'est-à-dire des bas morceaux. Ça peut être du poumon, des choses pas du tout nobles et qui sont préparées, qui sont transformées par l'alchimie de la cuisine.
Reportage. C'est à Venise, en 1498, que fut imprimé pour la première fois le livre d'Apicius, le De Re Coquinaria, nous dit Michel Tesser dans son livre « Saveurs et senteurs de la Sérénissime », où elle présente 80 recettes vénitiennes qu'elle a recueillies au cours de fréquents séjours à Venise et en particulier à la Bibliothèque nationale Marciana.
Moi, je conseillerais pour découvrir Venise de commencer par le marché.
Très tôt le matin.
Très tôt le matin, lorsque les blagozzi, les grosses barques à moteur, arrivent chargées de légumes tout frais et de brassées de laurier, de romarin, vraiment, c'est un miracle de senteurs balsamiques, de senteurs fraîches, violentes même de verdure, et puis de senteurs de marée, très violentes aussi, mais des senteurs d'eau profonde, de grand large. Et là, je crois qu'on comprend tout de Venise quand on perçoit Venise le matin, sur le marché du Rialto. Disons que le marché du Rialto, c'est vraiment le ventre de Venise, hein, c'est le cœur actif de la ville. Il y a aussi des petits marchés sur certains campi, hein, donc sur des places. Et puis il y a des barques, une en particulier dans le quartier de l'Arsenal, des barques qui vendent des légumes en particulier, des légumes, des fruits. Il y a des étals dans les rues, dans certaines rues. Il y a aussi beaucoup de petits marchands de fruits et légumes dans les quartiers, parce que les quartiers de Venise ont gardé ce charme qu'on a perdu en France de la France des années 50 ou 60, où il y avait des petits commerces de proximité, et ça, Venise l'a encore gardé. Les légumes viennent certes de terre ferme, mais surtout des jardins maraîchers installés sur les îles de la lagune. Alors ces jardins maraîchers produisent en particulier les artichauts, ces petits artichauts violets dont on consomme les têtes, les fleurs, ce qu'on appelle les castraure, c'est-à-dire c'est un petit artichaut miniature qui pousse en haut de la plante de l'artichaut et que l'on supprime pour favoriser la croissance des autres pousses. Et ça, traditionnellement, on le mange en beignet ou à la poêle le jour de la Saint-Georges, en avril.
Marie Lacombe est chef à la Bauta. La Bauta, c'est ce masque blanc bordé de noir qu'on porte avec un tricorne et une cape noire le soir du carnaval. Marie Lacombe est aussi gourmande de Bellini et de Giorgione que de Castaura, cette préparation des petits artichauts finement épluchés.
Ils ont une façon incroyable d'éplucher ça, c'est-à-dire qu'avec le couteau, ils contournent tout autour, ils enlèvent le surplus. On arrive au cœur, on coupe dessus, dessous, ça dure 10 secondes. Et on dirait vraiment que c'est... C'est tellement facile à faire qu'on pourrait le faire. Essayez de le faire, vous allez voir. Même avec le meilleur des couteaux, même avec un rasoir, on n'y arrive pas. C'est vraiment une habitude, un geste qui est devenu vénitien, spécifiquement vénitien, sur le marché. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ça baigne dans des bassines, des grandes bassines avec des morceaux de citron en général. On met un peu de citron et puis ça reste là. Et puis ça ne reste pas très longtemps, c'est vendu et c'est vraiment extraordinairement bon, parce qu'ils sont doux. Ils sont pas farineux, les artichauts en Italie. Ils ont ce côté doux, de chair. Ça, on pourrait presque dire qu'il y a la finesse du topinambour. Vous connaissez le topinambour, c'est très très fin. C'est un peu dénigré, malheureusement. Quoique, il y a des chefs qui ont su en tirer parti. Et ça, ce côté fin et non farineux, délicat du topinambour. Mais c'est de l'artichaut, en fait.
Il y a aussi les courges, les citrouilles. Les Vénitiens adorent ces citrouilles, on les voit. Alors il y a la Zucca Barucca, qui est une énorme courge d'un aspect très, très granuleux. Et je pense que l'étymologie du mot, c'est Barucca, c'est les varucosités, hein, les aspérités de cette courge. Donc ça, on la mange frite en beignet, on la mange au four tout simplement. On en fabrique des gnocchi à la Vénitienne aussi. Il y a la fameuse courge de Chioggia qui est sur la côte, la zucca di Chioggia qu'on appelle aussi le veau de Chioggia, tellement elle serait protéinée. Les Vénitiens sont pratiquement végétariens, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup de poissons et beaucoup de légumes, très très peu de viande. Donc d'où l'abondance et la variété des légumes. Alors ces légumes qui sont produits sur les îles ont un goût particulier parce qu'évidemment le sol sur lequel ils poussent, c'est un sol sablonneux qui est imprégné de tous ces sels minéraux de la mer. Hein. Et de plus, jusqu'à une époque très récente, on enrichissait le sol avec les carapaces des crabes, des petits crabes de la lagune que l'on consommait d'abord, et ensuite ces carapaces broyées servaient à enrichir le sol. Donc on a des légumes qui sont liés eux aussi à l'eau, à la mer, à travers même leurs racines, si l'on peut dire. Donc c'est une symbiose totale entre le règne végétal et le règne minéral et l'eau.
Leur cuisine sobre mais savoureuse, qui évoque un très ancien âge d'or, potage au riz et au céleri, fèves bouillies, fleurs frites de courgettes. Italo Calvino, Les villes invisibles.
Venise en juin, c'est un miracle. Il y a les fleurs de courgettes jaunes en bouquet, on dirait des bouquets de jonquilles. Et ces bouquets de courgettes, finalement, vont finir dans l'assiette, ces fleurs de courgettes, puisqu'on en fera des beignets. Et elles sont empilées sur des hauteurs de presque un mètre en petits bouquets qui vont se faner à la mi-journée et donc que l'on consommera très vite. Donc c'est ça l'esprit de Venise, c'est capter l'instant, c'est consommer quelque chose de très frais qui est au maximum de sa beauté, de sa fraîcheur. Donc l'herberia, ce marché aux herbes, ce marché aux légumes, c'est vraiment très très important pour Venise. On y trouve aussi, ça c'est une particularité vénitienne, à côté des légumes, les bovoletti, les petits escargots de jardin, des petits gris, que l'on vend, que les maraîchers ramassaient hein, traditionnellement. Maintenant, je pense que c'est un élevage, c'est un petit peu moins. Mais on trouve aussi ces escargots qui font partie des plantes maraîchères, si l'on peut dire. Et ça, je ne l'ai vu qu'à Venise. Donc, entre les piles de fleurs de courgettes et les brassées de romarin, on trouve ces tout petits escargots que l'on va accommoder aussi au vinaigre et aux herbes et que l'on va retrouver sur les comptoirs des bacari, des bars à vin.
Alors à Venise, il y a aussi la découverte de l'aubergine qui était très, dont on se méfiait beaucoup.
Alors l'aubergine, c'est la melanzane, c'est-à-dire la male insane, c'est-à-dire la pomme malsaine, la pomme vénéneuse. Et l'aubergine a mis longtemps à s'imposer à Venise aussi, parce qu'on considérait qu'elle était vénéneuse ou du moins malsaine pour la consommation. Alors il y a même une légende qui elle avait cours en Espagne. On disait que c'était les Sarrasins qui avaient introduit l'aubergine pour affaiblir la résistance des autochtones contre l'envahisseur sarrasin. Donc l'aubergine, qui est devenue maintenant un des plats en particulier traditionnels, la fête du Rédempteur en juillet, la Festa del Redentore, l'aubergine a été surtout vulgarisée par la cuisine juive aussi. Et il y a la peperonata, qui est à base de poivrons et d'aubergines, que l'on fait donc pour cette Festa du Redentore, qui est un plat national aussi vénitien, qui a été vraiment introduit grâce à la cuisine juive, essentiellement.
On fait des aubergines
grillées. Les aubergines. L'aubergine, puisqu'on a utilisé la peau, le cœur, on va le faire griller, on ne va pas le jeter, non. Sinon, on peut le faire paner aussi. Très, très bon, légèrement frit. Pané avec un peu d'œuf, farine, œuf et puis du pain. On le coupe en tranches, donc on le fait paner comme une escalope. Et on les passe dans l'huile, à la poêle. On peut mettre des feuilles de sauge, on peut mettre un peu de persil dessus, une goutte de citron, on peut faire plein de choses. Puis il y a des choses qu'on ne trouve pas. Malheureusement. Alors, l'autre Qu'est-ce jour, j'ai eu la chance d'en avoir. C'est ce qu'on appelle là-bas « i bruscandoli ». Et ce sont, c'est tout simplement de la pousse de houblon. Bon, alors, le houblon, tout le monde connaît, on fait de la bière. Ça, c'est une espèce de plante un peu grimpante. Je ne sais pas si on peut appeler ça grimpante ou cuisson. Et puis, quand au printemps, elle pousse, et bien, ses tiges se rallongent. Et c'est pareil, là, il faut couper les pousses pour donner de la force à la plante. Et alors, avec ces pousses-là, soit on les mange en légumes, en faisant juste pocher, puis après assaisonner avec de l'huile d'olive ou non d'olive, d'ailleurs, ce n'est pas obligé, un petit peu de citron. Sinon, on fait le fameux risotto. Alors ça, risotto di bruscandoli, c'est quelque chose qui est extraordinairement bon parce que ça dure 2 semaines dans l'année. C'est une renaissance du printemps tous les ans. C'est pour ça que c'est beau les saisons, parce que justement, on change de légumes, de goûts, de tas de choses. Et le bruscandolo, c'est vraiment quelque chose qui ne dure pas longtemps. Alors il y a ça. Vous avez après les petits pois, irisibisi, parce que là-bas, on a la chance d'avoir des petits pois qui sont extraordinairement bons. Et je ne sais même pas comment décrire, parce que jamais, jamais de ma vie, nulle part ailleurs, je n'ai retrouvé des petits pois aussi bons que ceux qu'on trouve à Venise. Ils sont doux, on pourrait les manger crus, ils sont fins, ils n'ont pas beaucoup de peau. Alors on peut faire de tout avec, bien sûr, le fameux risotto qui s'appelle Risi e Bisi.
J'ai aimé la bonne table avec transport et passionnément tous les objets faits pour exciter la curiosité. J'ai aimé les mets au haut goût, le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier napolitain, l'olia podrida, la morue de Terre-Neuve bien gluante, le gibier au fumet qui confine et les fromages dont la perfection se manifeste quand les petits êtres qui les habitent commencent à se rendre visibles. Casanova, histoire de ma vie.
La cuisine de Venise, c'est une cuisine pauvre, cucina povera, comme il y a l'arte povera. Et les Vénitiens revendiquent ce titre, ce nom, comme un titre de noblesse. Donc au départ, les habitants de Venise sont des pêcheurs, des sauniers, puisque l'exploitation du sel était même la première ressource de Venise. Et c'est avant tout donc une cuisine de lagune, de mer, une cuisine à laquelle le sel, le vinaigre, c'est-à-dire tout ce qui sert à conserver les produits de la mer, entre pour une bonne part. La terre ferme, la terra ferma, ce que les Vénitiens appellent la terra ferma, puisqu'ils se considèrent un petit peu sur un bateau, a fait sentir son influence beaucoup plus tard, avec en particulier plutôt vers le 18e. Et là, on a eu l'arrivée de quelques viandes, quelques plats à base de viande. Mais Venise, c'est avant tout le poisson et les légumes des jardins maraîchers des îles.
Alors, il y a beaucoup d'apports étrangers à Venise. Qu'est-ce qui a nourri comme ça la gastronomie de Venise ?
Alors Venise, justement, était au Moyen-Âge et à la Renaissance un petit peu le Hong Kong de l'Europe, hein, puisque grâce au privilège du commerce des épices qu'elle avait acquis très tôt par des traités avec Byzance, donc Venise est devenue le centre commercial de tout le monde médiéval, en particulier pour le commerce des épices. Et à partir de ce commerce, évidemment, il y avait tout un brassage de marchands, de commerçants qui avaient leur représentation, leur délégation commerciale, on dirait aujourd'hui, à Venise. Donc il y avait des Turcs, évidemment, des Syriens, des Albanais, des Allemands également, et également une grande présence juive qui a beaucoup, beaucoup influencé la cuisine vénitienne. Lorsque vous parlez avec les Vénitiens, ils vous disent que l'influence juive a été vraiment prépondérante, primordiale, en particulier dans l'emploi du riz avec des légumes ou des raisins secs, chose qu'on n'était absolument pas habitué à cuisiner de cette manière. Également, le fait de ne pas mélanger des produits laitiers avec des préparations à base de viande. Donc c'était souvent des considérations à la fois religieuses et diététiques et qui ont vraiment influencé la cuisine vénitienne.
Parmi la grande variété de poissons, il me semble que le muge, la dorade adulte, le denté de taille moyenne, la perche et l'ombre
se prête très bien à ce mode de cuisson que l'on nomme cappucciolo. Christophe de Messibugo, Venise, 1564.
Il y a la lagune, qui est cette stagnation d'eau saumâtre, salée, mais qui reçoit malgré tout toute l'influence des marées de Méditerranée. Et puis il y a le grand large. Alors dans la lagune, évidemment, on pêche des anguilles, énormément d'anguilles, et pour le Vénitien, l'anguille est presque l'emblème national. Il y a également des sèches que l'on cuisine en particulier al nero, c'est-à-dire dans leur encre. Et puis il y a tous les produits, évidemment, de la côte, les coquillages, le poisson, du large. Donc c'est vraiment la nourriture de base. Et d'ailleurs l'odeur de Venise quand on entre dans une osteria, un restaurant vénitien ou dans un baccaro, un de ces bars à vin où on mange les cicchetti, c'est avant tout une odeur de produits de la mer.
Alors la reine de Venise quand même, c'est la sardine.
Alors la sardine, évidemment, le plat emblématique de Venise, ce sont les sardes in saor. Et ce plat, lui seul, pourrait résumer l'histoire de Venise, puisque c'est avant tout un plat, une préparation destinée à prolonger la conservation du poisson. C'est-à-dire que lorsque on partait en mer, eh ben on préparer ces sardines d'une manière bien particulière, en particulier avec du vinaigre, pour pouvoir les conserver pendant plusieurs jours. Et ça a donné naissance à un plat qui est délicieux, que l'on mange couramment à Venise et que l'on trouve dans tous ces bars à vin, justement, qui sont les sardes in saor. Et puis les sardes in saor, c'est aussi le lien avec l'Orient, avec Byzance, puisque cette recette des sardes in saor, avant de la retrouver dans le premier livre de cuisine vénitien, qui est un anonyme du XIVe, on trouve pratiquement la même recette chez Apicius, le gastronome romain, et c'est aussi une recette de conservation du poisson qui elle-même devait venir des Grecs. Donc vous voyez, c'est toujours cette mer qui relie les hommes entre l'Orient et l'Europe et l'Italie.
Et saor, c'est la saveur, c'est ça ?
Alors saor, justement, c'est la saveur. C'est toutes ces préparations, en particulier au Moyen-Âge, qui font vraiment la plus grande partie des livres de cuisine, en particulier cet anonyme vénitien du XIVe. Ces saor, ce sont des petites sauces, des préparations destinées à relever le goût des aliments. Et comme ces préparations sont souvent à base, et même toujours à base d'aigre douce, c'est-à-dire on combine le sucré, le salé et l'acide, eh bien, elles sont appliquées un petit peu pour tout. Il y avait des recettes de saor extraordinaires, et en particulier une qui s'appelle saor ou sapor d'estate. Sapor celesta d'estate, c'est-à-dire la saveur céleste d'été. Tout simplement parce qu'on préparait ce saor avec des mûres qui donnaient une couleur bleue à la sauce.
Après la fort mauvaise soupe, on nous donna une petite portion de morue sèche, puis une pomme, et le dîner finit là. Nous étions en carême. Casanova, histoire de ma vie.
Alors la morue, c'est le bacala. C'est un mot que l'on retrouve en Espagne aussi, au Portugal. La morue, certes, c'était quelque chose qu'on mangeait essentiellement pour le carême, mais que l'on mange tout le temps maintenant à Venise. Et encore un des plats emblématiques de Venise, c'est le bacala mantecato. Et le bacala manteca, c'est une crème de morue qui est préparée avec de la morue, de l'huile d'olive, de l'ail. Et vraiment, je n'en ai goûté d'aussi bonne qu'à Venise. C'est extrêmement crémeux, léger. Ça a une apparence et un goût de préparation au beurre, d'où le nom manteca.
C'est le bacala mantecato. Donc le bacala, il venait des pays du Nord, donc c'est quand même pas un produit de la lagune. Mais à Venise, eh bien, on a su le préparer d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il est bien, bien dessalé. Ce bacala, on le fait pocher et ensuite on le monte dans un, disons, dans un mortier, on le monte avec un filet d'huile qui tombe comme pour une mayonnaise, et on ajoutera à la fin un petit peu d'ail, sel et poivre éventuellement, et un petit peu de persil plat. Mais en faisant monter cette morue, elle devient de plus en plus douce et de plus en plus blanche. Autant la morue, c'est grisâtre au début, puis on la bat. Ça, c'est pareil, typiquement vénitien, on le retrouve nulle part. Hein.
Il y a un plat qui m'intrigue beaucoup, c'est le crabe et les fraises.
C'est le fior di bosco. Alors, ça, fior di bosco, c'est une sauce que l'on fait avec des petites pâtes frites tagliolini. On fait ces tagliolini chez soi. Et vous avez donc cette sauce qui est faite avec des tourteaux, un produit de la lagune, et puis les fraises, qui autrefois étaient des fraises des bois, pour changer un peu. Parce que si vous remarquez dans la cuisine vénitienne, il fallait toujours innover pour changer. Donc on se trouve à manger du tourteau longtemps dans l'année, il faut un peu diversifier. Et comme la tomate n'était pas encore là, hein, puisqu'elle est arrivée à plein, et bien on a utilisé les fraises à la place de la tomate. Et le goût est absolument exquis, c'est un mariage qui est parfait, bien mieux qu'avec de la tomate, parce que quand même la fraise a un petit goût un peu plus corsé, un peu plus sucré, un petit peu moins acide que de très bonnes tomates. Et ça donne un résultat qui est extraordinaire. Mais ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des fruits dans la cuisine vénitienne. Vous avez même bien avant l'orange qui venait de Sicile, qui se retrouve dans des plats à base de poisson, de viande blanche. Vous avez la grenade, il melograno, qui est la pomme en granulé, d'ailleurs, c'est très drôle, melograno, qui servira de jus pour déglacer ou pour raviver des viandes dont on s'est fatigué, parce que c'est toujours pareil, c'est rôti ou bouilli, donc c'est toujours un petit peu la même chose. On retrouve dans les fruits le raisin, le raisin vert, entre autres, raisin mûr ou pas mûr, le raisin sec. On retrouve les pignons, on retrouve des tas de fruits pour agrémenter des plats qui, peut-être, avaient un peu fatigué le palais de ces gens qui retrouvaient toujours les mêmes saveurs.
La polenta. Benvenuti, benvenuti, via da bravi, le se senta, le se comoda qua tutti, che se ora de polenta.
Alors la polenta à Venise, on consomme la polenta blanche, la polenta à base de farine de maïs blanc, qui se marie très bien, d'ailleurs c'est très beau, très esthétique, avec le noir des sèches à l'encre. C'est un des plats les plus, encore une fois, les plus populaires et les plus emblématiques vénitiens, cette polenta avec les sèches à l'encre. La polenta, qui est blanche à Venise et qui est plutôt à base de farine de maïs jaune dans l'arrière-pays, sur la terraferma, en terre agricole, cette polenta, c'est une bouillie de semoule de farine de maïs. Et la polenta a vraiment connu son apogée au XIXe siècle. D'ailleurs, il y avait des auteurs, disons, culinaires qui faisaient des odes à la polenta. C'était une espèce d'exercice de style que d'écrire des poèmes à la gloire du vin, à la gloire de la polenta. Oui, alors la polenta, c'est un terme latin qui désignait la bouillie de farine d'orge. Et c'était la nourriture de base du paysan romain, du paysan latin. Et lorsque le maïs est arrivé dans la plaine du Pô, venant d'Amérique et puis s'implantant petit à petit dans la plaine du Pô, eh bien, on a continué à préparer la polenta, cette bouillie de farine d'orge ou de millet aussi. On a continué à le préparer avec la farine de maïs. Et c'est devenu l'ordinaire du paysan de terra ferma. Et ensuite, c'est arrivé évidemment à Venise.
Disnaremo qua in cucina, già la vede che sogeo, comigo la poentina, questo è sempre il mio tineo. Ludovico Pastò.
Comment le goûtez-vous, lo sgroppino?
Lo sgroppino, qui est donc on ne sait plus si c'est un dessert ou un cocktail, mais en tout cas, on le prendra en dessert puisqu'on le prend après un bon repas ou vraiment au milieu d'un repas extraordinairement riche. On va faire ce petit cocktail qui est tout simple et qui est fabuleux. C'est de la glace ou plutôt du sorbet au citron dans lequel on va mettre, disons, un tiers de vodka ou encore mieux, parce que vodka arrive après, mais de grappa, d'une bonne grappa, et puis un filet de prosecco. Prosecco di Valdobbiadene, qui est donc notre vin blanc pétillant naturel qui maintenant a fait le tour du monde. Et on mélange bien et on boit, on est entre le boire et le manger puisqu'on le met dans un verre, mais c'est quand même assez épais. Et je peux vous garantir que quand vous avez fait un bon dîner qui vous semble un petit peu trop, quand vous avez pris ce dessert-là, vous pouvez recommencer, hein.
Micro-ondes, saveurs et senteurs de la Sérénissime, texte et illustration de Michel Tesser et paru aux éditions Clair Sud. Scène et banquet de Venise d'Alain Buisine aux éditions Zulma. D'Italo Calvino, Les villes invisibles chez Poinceuil. Et puis Venise exquise, propos de table et recettes de Jean Clauzel chez Robert Laffont. De bouche à oreille, par René Caïm-Bollinger. Aujourd'hui, Venise maritime et maraîchère. Avec Michel Tesser, Marie Lacombe, texte lu par Frédéric Cantrel et Elisabetta Sapio. Mixage, Annick Brien, Ludovic Asselot. Réalisation, Véronique Villa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juillet 2001.